Bonjour, vous écoutez l'épisode 25 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la collation. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après 22 ans de carrière en REP plus en maternelle et j'ai maintenant à cœur de vous emmener sur votre chemin de parent pour vous montrer toutes les possibilités d'adaptation avec les besoins des enfants, les rayures de besoin de mon arc-en-ciel de besoin, d'adapter la cheminée des émotions pour les parents et pour les enfants et puis de profiter de temps de qualité en famille. Vous savez comment je les appelle maintenant, ce sont des tequils. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la collation. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, c'est le mot qu'on utilise en étant enseignant sur le petit moment nutritif qu'on va donner aux enfants entre leur arrivée dans la structure, que ce soit en crèche ou à l'école, et le moment officiel du repas du midi. Donc la collation, quand j'ai commencé dans les années 2000, c'était vraiment quelque chose de très bâclé, quelque chose qui était plutôt de l'ordre du « on donne un biscuit, chaque élève amène un paquet de biscuits à l'année et en fait on fait tourner le nombre de paquets de biscuits ». C'était assez pauvre en nutriments, non ? Déjà c'était vraiment quasiment que des BN. Et d'un autre côté, c'était un temps à la fois informel, qui n'était pas utilisé, qui n'était même pas très nourrissant, hein, puisque un biscuit, c'était assez limité comme apport. Et on s'est rendu compte au fil des années, puisqu'on travaillait dans un quartier RE+, que la collation pouvait être repensée autrement, pouvait être vraiment utilisée pour des apprentissages et pour servir à la rayure rouge, qui était quand même l'objectif principal, à savoir nourrir le besoin alimentaire de l'enfant. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait presque un tiers des enfants de la classe qui ne petit déjeunaient pas le matin, qui du coup étaient fatigués, n'avaient plus d'énergie pour mener leurs apprentissages correctement, leurs ateliers, leurs séances de sport, la récréation, la patience, l'écoute. Tout ça était mis à mal puisque au niveau du carburant de leur corps, ce n'était pas apporté chaque matin avant l'arrivée en classe. Donc on a réfléchi en concertation et on a installé assez rapidement, ça devait être vers 2003-2004, les collations multisensorielles, donc des collations qui sortaient du domaine simple des biscuits et des gâteaux. Donc on est parti sur bien entendu les fruits, les laitages, les tartines de fromage. On faisait découvrir aux enfants des goûts différents, des goûts peut-être inédits pour eux, qu'ils n'avaient pas à la maison. Je me souviens des biscottes au Roquefort, pour certains enfants, c'était une découverte incroyable. C'était vraiment un nouveau continent, le Roquefort. Et même pour certains adultes qui passaient dans la classe. D'ailleurs, la première inspection que j'avais faite, l'inspecteur était passé un jour où on avait fait thon mayonnaise. Donc je ne vous cache pas que mélanger thon mayonnaise vers 10h du matin avec l'inspecteur dans la classe, c'était assez folklorique. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, un des principaux attraits de la collation, c'est de faire découvrir de nouveaux goûts, de faire découvrir de nouvelles sensations gustatives, donc de travailler sur les découvertes sensorielles, les cinq sens et la conscientisation du corps. Je vous en parlais dans l'épisode 20. Plus on utilise des canaux différents pour apprendre et plus l'enfant peut mettre dans sa base de données des éléments vraiment concrets pour lui. S'il a goûté des nouvelles choses en classe et qu'ensuite il les regoute à la maison, il fera le lien, il construira son apprentissage, sa mémorisation et sa catégorisation. Et puis, au-delà de l'aspect nutritif, ce qui nous a intéressé beaucoup aussi avec l'équipe, c'est de voir que manger n'était pas seulement apporter de l'énergie au corps, que ça pouvait aussi être un plaisir et que c'était un des éléments de l'alimentation. Donc en restant dans cette rayure rouge, des besoins physiologiques, de survie, de s'alimenter, d'amener des forces à notre corps, on a glissé doucement vers la notion de « qu'est-ce que j'aime ?». Donc là, on serait plus dans la rayure jaune d'identité. Qu'est-ce qui me plaît gustativement? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à manger ou ce que je préfère arrêter de manger? Donc là, vous voyez qu'on glisse aussi vers la rayure de choix, puisqu'il n'est pas question de forcer un enfant à découvrir tous ses nouveaux goûts s'il ne le veut pas. Mais c'est proposer un éventail de saveurs qu'il n'aurait peut-être pas découvert à la maison, ou alors plus tard, ou alors différemment. Donc là, on crée un contexte de découverte sensorielle par le sens du goût. En complément de ce qui était gustatif, bien entendu, le vocabulaire, le lexique était très intéressant pour eux parce qu'il permettait de comprendre ce qu'ils mangeaient, de mettre un mot, un nom, un contexte, une catégorisation sur l'aliment. Donc ça lui permettait, lui, de voir si c'était quelque chose qu'il connaissait ou non, s'il ouvrait une nouvelle fiche en fait dans sa base de données ou s'il la raccrochait à quelque chose qu'il avait déjà mangé. Quand on faisait la séance sur les pommes, bien entendu, les enfants avaient tous déjà mangé une pomme. Mais cette pomme-là, on l'observait, on décrivait sa couleur, on la coupait ensemble, on nommait les parties de la pomme, la peau, les pépins, la queue, on disait comment ça se mange, quel est l'outil pour la couper. Donc tout ce vocabulaire, toute cette procédure en fait, avant de manger la pomme, était répétée plusieurs fois dans la semaine pour que les enfants puissent s'approprier le vocabulaire, le lexique, les outils, la gestuelle, et puis ensuite aboutir à cette sensation gustative. Toute cette préparation nous mène à la dégustation de la pomme en elle-même. Ça fait appel aussi au sens puisqu'on demandait la semaine d'après aux enfants de couper eux-mêmes les morceaux de pommes. Donc ils étaient mis à contribution pour faire le geste moteur de couper les pommes. Et là, vous voyez que ça englobe beaucoup vraiment d'activités et non plus simplement proposer un gâteau sur un plateau. Pour rester dans le thème des pommes, on avait fait cette semaine-là donc les pommes crues, les pommes cuites, les compotes, les pommes en jus, les pommes en salade de fruits, les pommes séchées. Donc tous les aspects différents de la pomme pour que l'enfant ne se limite pas à une pomme, c'est juste la pomme que je vois au marché. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs matières. Tout ça, c'est vraiment dans sa manière de catégoriser les objets. Donc on touche à la sphère logique, hein, à la sphère mathématique, à la sphère de tri. Et puis le retour au corps par le goût nous permettait aussi de voir qu'on avait une intelligence sensorielle qui pouvait être complémentaire à l'intelligence des savoirs, l'intelligence intellectuelle. Donc c'était un autre canal d'entrée pour les informations, de se dire « Ah, mais mon corps peut aussi avoir son avis sur ce que je mange, mon corps peut aussi prendre conscience que certains goûts sont plus agréables que d'autres. » Et là, je vous renvoie à ce qu'on avait dit aussi sur la conscientisation du corps. Ensuite, on pouvait développer ça, donc suivant la classe de l'enfant, pas dans le dispositif des moins de 3 ans, mais avec les petits, les moyens et les grands, on pouvait développer ça sur le thème de qu'est-ce qui est comestible ou non, quels sont les aliments qu'on ne va pas manger en collation, quels sont les aliments qui pourraient nous mettre en danger. Donc là, peut-être que vous avez pensé spontanément aux champignons, puisque c'est ce qu'on dit, notamment quand on va faire une sortie en forêt, d'être vigilant sur tout ne se ramasse pas, tout ne se mange pas. Ce n'est pas parce que c'est dans la nature que c'est comestible. Donc c'est l'occasion, bien entendu, de le rappeler en classe, à l'occasion de la collation. Pareil pour toutes les petites baies qu'on trouve sur les allées, sur les arbustes. Ce n'est pas parce que c'est joli et rouge que ça se mange forcément. Donc on partait sur une petite notion de vigilance, de prévention des dangers domestiques et aussi éventuellement d'intoxication. Donc avec les grandes sections, on avait fait un grand projet avec la MAIF sur les dangers domestiques et on parlait de cette famille intoxication, donc alimentaire. C'était aussi avec les produits qu'ils pouvaient trouver dans la maison. Mais là, si on reste juste sur le domaine alimentaire, c'est important de dire aux enfants qu'on ne mange pas tout ce qu'on peut trouver et tout ce qu'on peut ramasser, qu'il peut y avoir des conséquences désagréables à ce qu'on ingère, à ce qu'on met dans notre corps. Du coup, on glisse bien entendu vers la santé. Quels sont les aliments qui nous donnent le plus d'énergie? Quels sont les aliments qui nous donnent le plus de force? Quels sont les aliments qu'on peut manger en grande quantité ou non? Ça peut être l'occasion de parler un petit peu des effets du sucre, sans le diaboliser, hein, bien sûr. Là, on était en pleine période d'Halloween, donc c'était l'occasion de le rappeler. Et j'ai vu passer plusieurs posts sur les réseaux sociaux. C'était assez intéressant de le rappeler parce que, si on diabolise un des aliments, si on diabolise un des, notamment hein, les bonbons, les sucettes, les sodas et tout, si on impose comme règle établie, fixe, définitive, qu'il ne faut pas, ça crée un interdit qui peut être très attirant pour un jeune enfant, qui est dans sa rayure d'exploration, dans sa rayure verte, qui veut tout essayer. Plus on lui mettra d'interdits et plus il aura envie de voir pourquoi cet aliment est auréolé d'un tel interdit qui clignote, il faut pas, c'est pas bien. Et là, je vous renvoie aux énoncés positifs de l'épisode 4. Si on dit « ne mange pas de bonbons », hein, il entend très souvent « les bonbons, c'est très bon, et j'en veux encore, merci papa, merci maman ». Donc, ne diabolisons aucun aliment. Par contre, on peut accentuer peut-être quels aliments lui donnent plus d'énergie, quels aliments lui donnent plus de force. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui participe à un événement sportif, ça peut être l'occasion de préciser qu'avant une compétition, bah, il a peut-être fait un plat de glucides pour avoir plus de force, ou de parler un peu des féculents, de parler un peu de l'équilibre alimentaire. Avec les grandes sections, c'est un projet que j'avais mené qui m'avait beaucoup plu aussi, de parler des 7 familles d'aliments. Et dès tout petit, on peut leur expliquer que, bien sûr, c'est très bon de reprendre de la tarte aux pommes, mais qu'au bout d'un moment, si on prend trop de tarte aux pommes, bah, le corps va se sentir lourd, on aura un peu moins d'énergie alors qu'on a mangé. Donc, ce n'est pas trop manger, c'est plutôt vers le bien manger, vers le mieux manger, sans diaboliser d'aliments du tout. Donc, ça couvre déjà pas mal de champs d'action et de champs d'activité. Hein. Vous voyez, la collation, ça peut vraiment être sur le langage, sur le lexique, sur la catégorisation mathématique, sur les découvertes sensorielles, sur la manière d'intellectualiser aussi la notion de santé, la notion de maladie, la notion de problème physique ou de risque domestique. Et on va même aller un peu plus loin, ces moments de collation, notamment dans le dispositif de moins de 3 ans, c'était aussi un moment pour se relier à l'autre, pour se relier au groupe et pour se rendre compte qu'en fait les autres enfants n'avaient pas les mêmes goûts que soi, que les autres enfants peut-être adoraient la salade de fruits alors que moi pas du tout, peut-être qu'un autre enfant aime beaucoup les abricots secs alors que moi pas du tout, et donc c'était une manière d'affirmer nos singularités, en disant, ben, chacun a des goûts différents, chacun a des préférences alimentaires, tu peux manger ça si tu en as envie, si tu n'en as pas envie, ne te force pas. Donc on arrive très lentement mais sûrement à la notion du consentement alimentaire, de ne jamais forcer un enfant à finir ce qui était prévu devant lui, que ce soit le gâteau d'anniversaire, que ce soit le fruit sec, que ce soit la tartine de Roquefort, que ce soit les éléments qu'on avait mis sur la table quand on avait fait de la soupe ou tout ça. L'idée principale est de participer au moment de collation sans être obligé de quoi que ce soit. L'enfant qui ne voulait pas couper la banane pour la salade de fruits, l'enfant qui ne voulait pas manger de compote, assistait au moment sans consommer. Et c'est à ces occasions-là qu'on s'est rendu compte aussi, notamment dans le dispositif des moins de 3 ans avec mon ATSEM, qu'il y avait des enfants qui avaient créé un lien assez déformé avec la nourriture et qui, au fil du temps, s'avéraient vraiment très compliqués. Et en entretien avec les parents, comme je vous disais dans l'épisode 18, on se rendait compte qu'il y avait une mise en place d'un enjeu alimentaire qui était parfois lié à un conflit avec la mère ou avec le père ou alors avec la situation familiale qui était un petit peu compliquée à la maison. Et on voyait que vraiment ce rapport à l'alimentation, dès tout petit, et c'est ça qui est étonnant parce qu'on peut le voir un peu plus grand, mais dès tout petit, était installé comme un rapport de force. Et j'ai le souvenir notamment d'une maman qui me disait « Ah mais à la maison, il ne mange rien du tout, je suis obligée de lui accrocher les mains dans le dos pour le faire manger de force. » Donc quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup de travail en classe pour déconstruire en fait cette notion qu'il faut manger, que c'est une obligation, que c'est un... J'ai des mots très forts qui me viennent là, mais je vais rester sur la notion de consentement. Un enfant qui ne veut pas manger, pour moi, c'est de la violence de lui forcer à ingurgiter un aliment. Quand j'ai entendu cette maman me témoigner de sa difficulté à la maison de faire manger son fils, j'ai compris beaucoup d'autres choses par rapport à ce petit garçon en classe et par rapport à sa manière de s'opposer systématiquement à certains moments où on ne lui laissait pas agir par lui-même, où on ne le laissait pas faire ses propres expériences et qui, je pense, le renvoyait à cet épisode où il ne se sentait pas maître de lui, où on forçait son consentement. Donc sans aller dans ces exemples extrêmes, hein, vous comprenez bien que c'est pas mon idée, c'est pas de vous inquiéter sur la notion d'équilibre alimentaire et de consentement alimentaire, mais juste d'ouvrir une petite brèche de réflexion sur le fait que quand on force des enfants à prendre la collation ou quand on ne leur propose pas non plus de collation, ce qui peut être un choix pédagogique parce qu'il y a eu plusieurs années, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 ans, où on avait complètement arrêté la collation parce qu'il y avait eu de nombreuses études sur les taux de diabète qui avaient vraiment grimpé sur les jeunes enfants, notamment on avait un peu diabolisé la collation à l'école et tout. Donc, loin de moi l'idée de dire à chaque enseignant ou chaque responsable de crèche ou chaque parent comment il doit alimenter son enfant, son élève, sa classe ou son groupe, mais vraiment de prendre conscience des influences que ça peut amener et des indices en fait que ça peut donner sur le rapport à la nourriture de chaque enfant. Il y a des enfants qui avaient un rapport à la nourriture très fluctuant. Les jours où ils étaient très en colère, très tristes, ils ne mangeaient pas. Et puis, il y a des jours où tout allait bien, ils mangeaient. Dans ce sens-là, c'est plutôt un rapport sain à la nourriture. Ça veut dire qu'ils fermaient toutes ses émotions et ils ne se servaient pas de la nourriture pour combler. Mais on avait aussi d'autres profils, sans généraliser, d'enfants qui, dès qu'ils avaient une frustration, se dirigeaient vers le tiroir à nourriture et essayaient de récupérer un bonbon, essayaient de récupérer un gâteau, essayaient de récupérer une pomme. Ça nous arrivait tous les ans d'avoir un enfant qui essaye de croquer dans une pomme alors qu'on l'a laissé un peu à leur portée parce qu'on ne pouvait pas tout mettre en hauteur. Et de voir que pour eux, c'était une manière d'affirmer à la fois leur puissance d'action dans le monde et aussi que ça répondait à un besoin de sécurité, de réconfort, de douceur qu'ils n'avaient pas eu dans la frustration qui venait d'arriver. Donc, est-ce qu'on comble parfois nos émotions avec de la nourriture ? Je vous le renvoie à titre d'adulte, je pense qu'on est quand même beaucoup en tant qu'adulte à organiser parfois nos moments de coup de mou avec une petite douceur, un petit chocolat chaud, de la glace, du chocolat, des choses qui ne sont pas complètement dans la liste des aliments vraiment sains. Mais pour autant, à chaque fois, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça vient combler chez nous, qu'est-ce que ça vient nourrir comme besoin de notre arc-en-ciel. Est-ce que c'est un besoin de réconfort? Est-ce que c'est un besoin de soutien? Est-ce que c'est un besoin de douceur, de détente? Et est-ce que d'autres stratégies pourraient répondre à ce besoin éventuellement que la plaque de chocolat ou le pot de glace façon Bridget. Et pour les enfants, j'ai vu certains enfants sur les 10 dernières années se servir vraiment de la nourriture comme point d'ancrage. Des enfants qui étaient les premiers assis à la table de collation, des enfants qui redemandaient une part de gâteau d'anniversaire 3 fois, 4 fois. Donc à un moment, on était obligé de poser la limite parce qu'on voyait que la quête de barrières, de cadres et de limites finissait par être plus importante que le besoin de manger. Le besoin de manger, de s'alimenter était déjà comblé. Mais là, ils cherchaient à voir à quel moment on allait dire stop, ça suffit, tu as assez mangé de gâteau d'anniversaire. Et vous voyez que la limite est toujours un peu floue, elle est un peu difficile parce que sans avoir beaucoup observé l'élève, sans avoir vraiment compris sa relation à la nourriture, on ne voit pas toujours les mécanismes qui se passent intérieurement, à savoir si à ce moment-là c'est de la nourriture pour manger, s'alimenter, ou si c'est de la nourriture pour rentrer dans une légère opposition et dans une quête en fait de la règle et de la limite. Donc il y a plein d'apports sur des blogs, sur des podcasts autour de l'alimentation. C'est vraiment très très riche en ce moment. Et je fais un petit coucou à Anne qui a un podcast qui s'appelle La pleine conscience du pouvoir et qui parle justement de l'alimentation intuitive. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans ce sens écouter ce podcast. Mais ces enfants-là cherchaient des leviers d'ancrage, cherchaient des leviers d'opposition en fait avec les adultes de la classe pour voir à quel moment on allait réagir, on allait intervenir. Donc c'était important pour moi de vous préciser aussi ça parce que vous l'avez peut-être vu lors d'un goûter d'anniversaire chez vous ou lors d'une sortie en centre aéré. de voir des enfants qui vont rester à la table jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans les assiettes, comme si c'était une question de vie ou de mort de tout finir. Et je vous invite aussi à réfléchir sur la petite phrase du « finis ton assiette » qui peut-être n'est pas en lien direct avec les besoins physiologiques de son corps à ce moment-là. À qui on fait plaisir quand on demande à l'enfant de finir son assiette? Est-ce que c'est pour son bien? Est-ce que c'est pour des questions pratiques et logistiques de vaisselle? C'est une notion à interroger. Et en tout cas, en classe, on peut très facilement imaginer qu'il y avait autant de façons de prendre la collation que d'élèves. Il y a des élèves qui consommaient beaucoup de collations, que ce soit des poires, de la salade de fruits, une biscotte à la confiture. Et il y a des enfants qui ne consommaient pas de collations, soit pour rester dans leur activité, soit pour s'éloigner du groupe qui était un peu bruyant. Donc chacun était libre d'accéder ou non. Le seul petit moment où on préférait que tout le monde soit là, c'est pour la vie de classe et les anniversaires. Donc c'était vraiment un moment pour célébrer le moment de la journée et puis le passage dans l'année suivante de l'élève en question. Et là, c'était l'occasion de proposer à chaque enfant de s'asseoir autour de la table, même s'il ne voulait pas le gâteau d'anniversaire ou les bonbons ou le jus de fruits et tout ça. Voilà, donc plusieurs éléments pour la classe. Évidemment, à la maison, vous n'allez pas tout prendre en compte puisque vous n'avez pas forcément le groupe entier à gérer. Mais je vous invite à réfléchir sur ces points précis. Est-ce que l'enfant peut se servir tout seul? Est-ce que l'enfant a un accès sur toute la journée aux aliments? Est-ce qu'il peut choisir lui-même lors de son repas? Est-ce qu'il peut se resservir? Toutes ces questions-là peuvent être intéressantes de réfléchir en amont pour que face à l'enfant, vous ayez déjà décidé un petit peu des pistes et du cadre que vous voulez lui donner. Est-ce que c'est important pour vous de le faire, de le laisser libre d'accès à la nourriture? Est-ce que ça renvoie chez vous une certaine peur qu'il prenne trop de poids, une certaine peur qu'il ait une santé qui soit mise en danger? Tout ça, ça interroge notre rôle de maman, notre rôle parfois d'enseignant aussi, puisque pour certains élèves, on a déjà des enfants qui à 3 ans, 4 ans, 5 ans sont dans une courbe de poids inquiétante, sont des enfants qui demandent encore le biberon de lait, le biberon, alors j'en parle maintenant parce que on a vécu ça quand même pendant 20 ans, le biberon de coca avant de s'endormir. Ces enfants-là n'ont pas une nourriture pour s'alimenter. Ces enfants-là ont une nourriture qui devient un doudou, qui devient une façon de se réconforter, qu'il serait peut-être bon, qu'en pensez-vous, je vous laisse libre d'appréciation, mais de désamorcer avant l'adolescence, avant le passage à l'âge adulte. Tous ces comportements qu'on est en train d'induire chez des jeunes enfants, comme quoi si tu es sage, tu vas avoir un bonbon, si tu es sage, je te donnerai du gâteau, qu'est-ce que ça montre pour l'enfant que quand on a un problème, quand on répond aux besoins de l'adulte, on est récompensé par de la nourriture. Ça peut facilement, hein, si je force vraiment la caricature, nous renvoyer à sa prochaine rupture, comment il va gérer la souffrance, à son prochain travail, période de chômage ou licenciement, comment il va gérer la frustration. Est-ce que le risque, ce n'est pas d'aller dans une consommation d'éléments extérieurs, que ce soit alimentaire, que ce soit substance plus ou moins licite ou pas, au lieu de creuser sa cheminée des émotions, de creuser et d'accueillir sa tristesse, sa peur, sa colère, sa joie, et de ne pas faire porter aux aliments, de ne pas faire porter à l'alimentation, à la nourriture, un rôle qui n'est pas directement lié à la situation déclenchante. Quand on est en rupture sentimentale, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, se noyer dans la nourriture n'est pas une stratégie sur le long terme. Ce n'est pas la nourriture qui va nous aider à en sortir. C'est un moyen qu'on a choisi à ce moment-là parce que ça nous paraissait être le bon. Et je ne juge pas ceux qui l'ont fait, ceux qui le font encore. Je l'ai fait aussi comme tout le monde. Mais peut-être que de prendre conscience que cette stratégie-là pour nourrir notre besoin de réconfort, de partage, de connexion, de soutien, n'est pas la seule possible. On peut aussi appeler un ami, on peut aussi sortir dans la nature, on peut créer quelque chose d'artistique, on peut se changer les idées. peut-être en dehors de l'alimentaire, de la nourriture réconfortante. Donc plein de petites pistes, hein. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître, que je lance à votre bon cœur de réflexion. Je vous laisse bien sûr juge de ce que vous voulez faire pour votre enfant, votre classe, votre structure. Néanmoins, ces 20 ans en maternelle m'ont vraiment aidé à voir que ça s'installait très très tôt en fait. Les enfants de 2 ans dans ma classe avaient déjà des yeux qui surbrillaient quand on sortait le paquet de bonbons d'anniversaire. Et ça m'a beaucoup interrogée. Ça m'a beaucoup interrogée parce que ce sont les mêmes yeux quand on leur présente un écran. Ce sont les mêmes yeux quand on leur promet un tour de manège. En fait, ce sont des yeux de « carotte » entre guillemets, quand on leur promet un donnant-donnant, une sorte de chantage affectif. Donc, je vous invite à voir si c'est ce que vous voulez installer ou si c'est ce que vous avez peut-être même vous-même vécu dans le rapport à la nourriture. Ça, j'ai déjà dit. Je baisse les yeux sur ma feuille, bien entendu. Priver de nourriture pour un enfant, c'est pas une... Parce que j'ai une maman qui m'a dit, de toute façon, quand il est pas sage, je le prive de nourriture ou de goûter. Donc là, on en revient à la rayure physiologique, la rayure rouge. Priver un enfant de nourriture n'a sans doute pas la même conséquence que ce qu'on croit donner. Pour un enfant, il se sent juste privé d'amour, il se sent juste privé de liberté et d'autonomie. Mais il ne voit pas ça comme un enjeu alimentaire. Il voit ça comme une frustration, comme toutes les autres. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver d'autres moyens d'exprimer notre désaccord sur sa façon d'agir ou de reformuler son geste de manière à ce qu'il puisse peut-être réparer ce qu'il a fait avant, ce qui nous a mis en colère, en discuter ensemble, détailler un peu nos cheminées mutuelles des émotions, mais éviter de priver un enfant de quoi que ce soit, puisque priver, ça nous ramène encore à l'interdit, à la diabolisation de certains aliments, du sucre et tout ça, des sodas. Alors que l'idée, c'est de consommer une partie de ce qui nous fait du bien, mais dans la modération. Et vous savez que les enfants ne sont pas très modérés, puisqu'ils veulent plus de sensations, plus de plaisir. Et certains ados et certains adultes sont encore dans cette quête du plus de plaisir, plus de je veux, ce qui peut être normal, c'est leur côté égocentré de jeunesse. Mais ensuite, on apprend à voir aussi quelles sont les conséquences éventuelles, quelles sont les autres méthodes qui peuvent nous aider à combler ces envies et ces besoins et de ne pas partir sur forcément une privation de nourriture. Sur le schéma de la collation, on peut aussi, quand c'est bien installé, donc pendant 3 mois, on faisait de la collation assez basique sur les fruits, les laitages, le fromage, certains féculents, donc de comparer par exemple la différence entre les propriétés de la biscotte, de la brioche, du pain, de parler un peu de leur fabrication, qu'est-ce qui est différent entre une biscotte, une brioche et du pain, de voir comment elles étaient fabriquées, quels sont les aliments, est-ce qu'il y avait une cuisson et tout. Donc ça peut déboucher sur un atelier cuisine, sur un tequil cuisine, ça peut déboucher aussi sur un tequil science. On va participer à la fabrication du pain, notamment il y avait des ateliers à la Villette où j'ai des collègues qui y allaient régulièrement, de voir comment est fabriqué le lait, d'où il vient. Tous ces éléments-là, ça fait partie d'un thème très vaste, assez transversal de connaissance du monde, qui nourrit pour le coup leur rayure bleue. Et vous voyez qu'on a basculé sur quasiment toutes les rayures, puisque de la rayure rouge de survie alimentaire, la rayure orange de relation, parce qu'on partage un moment à plusieurs quand on mange, c'est pareil pour les repas de famille, la rayure jaune d'identité, quels sont mes goûts, qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'en veux encore, est-ce que je m'arrête, la rayure verte d'autonomie, est-ce que je suis libre d'accéder à cet aliment? Est-ce que je peux en reprendre? Est-ce que je suis autonome dans mes choix? Est-ce que je me sens contraint ou non? Et la rayure bleue de sens, de comprendre d'où viennent ces aliments, à quoi ils servent dans mon corps, quelles sont les facultés en fait qu'ils vont apporter comme carburant lié au fonctionnement interne. On peut parler de l'estomac. Avec les grandes sections, on avait fait un projet santé. Donc de parler de l'estomac, de parler de la digestion, de comment ça s'évacue ensuite, hein, de tout le schéma alimentaire basique, de l'absorption initiale à l'élimination aux toilettes. Et tout ça, ça nourrit vraiment une compréhension du monde par les aliments, par la fonction du corps, par la vie quotidienne, puisque ce sont des choses qu'ils ne font pas qu'à l'école, ce sont des choses qu'ils font avec toute la famille, à la maison, avec les amis, avec les copains, au centre de loisirs, partout en fait. Et de la même façon, on avait aussi des possibilités d'enchaîner sur la marchande, par exemple, d'introduire des jetons pour payer, pour les faire pratiquer en fait le vocabulaire qu'on avait vu en collation, pour qu'ils puissent installer un dialogue de qualité, comme je vous disais dans l'épisode 19, une vraie situation réelle de langage et de dialogue autour des aliments. On rajoutait en plus la façon un peu monétaire de marchande. Et un petit point un peu plus humoristique, avec les protocoles sanitaires qui se sont multipliés et aussi les PAI, hein, les projets d'accueil individualisés par rapport aux allergies, on était tenu quand même à l'école de faire très attention aux aliments allergènes, des aliments notamment, on avait des enfants allergiques à l'arachide, au kiwi, certains aux œufs. Et pour certaines catégories d'aliments, ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir des aliments qui étaient vraiment exemptés d'allergie totale, parce qu'il y a toujours des conservateurs et des petites lettres sur tous les paquets. Mais ça a conduit les restrictions année après année à se retrouver à manger vraiment des gâteaux industriels pour fêter les anniversaires. Et j'ai une petite anecdote avec mon ADSEM, il y a une année où à chaque anniversaire des enfants de moins de 3 ans quand même, on avait soit une forêt noire de Auchan, soit un fraisier de Carrefour. Et je ne vous cache pas que la forêt noire avec des enfants de 3 ans, c'était pas complètement adapté. C'était délicieux hein, pour nous, mais j'avoue que c'était pas complètement adapté. Les fraisiers un petit peu plus, ils avaient plus de succès auprès des enfants. Mais ça nous empêchait finalement de cuisiner beaucoup avec eux, d'être dans les ateliers sensoriels. Et donc dans ce sens-là, le protocole ne nous a pas toujours aidés. Et là, même en crèche, hein, l'année dernière, ma petite, ils ont fait tous les anniversaires avec ou des 4 quarts ou des savanes. Alors je ne vous cache pas que la qualité gustative sensorielle du 4 quarts ou du savane industriel ne peut pas trop rivaliser avec le bon gâteau des mamans qu'on avait au début des années 2000, quand c'était encore autorisé. On avait des mamans qui faisaient des super, super gâteaux pour les anniversaires en classe. Donc voilà, ça c'est une des contraintes qu'on a maintenant avec la multiplication des allergies. Néanmoins, ça permet aussi de faire une sensibilisation au niveau santé, hein, de dire qu'avant de manger quelque chose, on peut aussi vérifier qu'il n'y a pas d'éléments dangereux pour nous dedans. Et ça permet de voir aussi que certains enfants n'ont pas les mêmes réactions physiologiques que nous. Voilà tous les petits points que j'avais mis de mon côté. Je m'étais mis aussi que travailler l'alimentation en famille, que ce soit sur la collation ou sur l'équilibre alimentaire, ça permettait aussi de faire un cadeau à nos enfants quand ils seront ados, quand ils seront dans leur chambre d'étudiants, parce qu'on ne sait pas trop hein, comment ils mangeront dans 10 ans. Mais si nous, on se rappelle les premières fois qu'on a été étudiants, bah, certains d'entre nous ne savaient pas faire chauffer des pâtes, ne savaient pas comment faire cuire la viande, combien de temps, est-ce que ça se cuit au four, à la poêle et tout. Et je me dis, je suis contente d'être allée un an en Erasmus parce que ça m'a permis de m'autonomiser au niveau de la nourriture. Et j'ai l'impression qu'il y a peu d'enfants maintenant qui savent comment cuisiner, qui savent comment préparer des plats, quand ils n'ont pas autour d'eux des adultes qui leur montrent en fait comment faire, qui leur transmettent les gestes-là. Et on a été quand même dans des confinements successifs où il y a eu de plus en plus de livraisons possibles, de plus en plus d'options pour se faire livrer du tout prêt. Et il pourrait être, hein, je lance la piste comme d'habitude, il pourrait être utile en tant que famille, en tant que parent, de transmettre aussi certains gestes basiques pour que nos enfants plus tard puissent eux-mêmes se nourrir de façon autonome, hein, mine de rien, de ne pas dépendre des restaurants du coin et des livraisons, mais puissent, en cas de besoin, se préparer eux-mêmes à manger, dans quelles conditions, avec quels outils, et de transmettre à notre petit niveau. Ce ne sera pas comme nos grands-mères qui savaient tout faire elles-mêmes et qui n'achetaient rien tout près. Il ne s'agit pas de refaire forcément sa pâte à tarte nous-mêmes, mais vraiment de leur donner quand même quelques gestes, un kit d'urgence pour s'alimenter en dehors des livraisons extérieures. J'ai pas de problème avec le fait de se faire livrer, on le fait aussi régulièrement, mais je pense que c'est dans cette rayure d'autonomie important de transmettre à nos enfants et aux élèves l'idée qu'on peut faire aussi nous-mêmes, qu'on n'est pas obligé de se reporter aux décisions de quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'on veut manger, comment le manger et comment le préparer. Voilà. Tout ce que j'avais mis sur la collation, j'ai réussi à vous le dire de façon plus ou moins ordonnée. Vous commencez à le savoir. Si vous avez envie d'aller plus loin sur l'idée du corps, je vous renvoie à l'épisode 20 où je parlais de conscientiser le corps. Et puis, sur tous les autres aspects, vous pouvez aller au gré de vos envies sur les autres épisodes du podcast. J'ai une bonne nouvelle à annoncer que j'ai annoncée sur les réseaux hier soir. Je vous propose de partir du bon pied sur 2022 en étant apparemment plus zen. Donc j'ouvre un programme en ligne tout le mois de décembre qui va s'organiser sur 5 visios en live, donc le mardi soir de 20h à 22h. Donc on commence le 30 novembre. Ce sera des visios pour vous transmettre les outils que vous commencez à entendre de ci, de là dans les podcasts. Sur ceux qui me suivent aussi sur les réseaux, vous avez déjà entendu une partie de mes outils. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, c'est un programme en live, il n'y aura pas de replay. C'est un programme adapté, quel que soit l'âge de vos enfants. Ça peut être accessible vraiment, même si vous n'êtes pas enseignant, si vous n'êtes pas au courant de toutes les dernières technologies sur l'éducation et la parentalité. Il n'y a aucun problème avec ça. Je reprends les bases en visio avec vous, et c'est en participation consciente. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ça veut dire que vous ferez le virement que vous voulez. À la fin du cycle, il n'y a pas de tarif minimum. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, inscrivez-vous. Les places sont limitées, je limite à 25 places pour que les visios soient confortables pour chacun. Si vous êtes sûr d'assister à la plupart des mardis soirs de décembre, démarrage le 30 novembre, inscrivez-vous sur Instagram ou par mail à lppzen@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver pour démarrer ce programme très rapidement. On a encore un épisode d'ici là, donc la semaine prochaine, nous parlerons des doudous. Nous parlerons de tous ces objets transitionnels avec les enfants. Je vous souhaite une très bonne semaine. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à très vite. Au revoir.